Alors, faisons un petit exercice d'imagination pour commencer. On est face au tout premier meurtrier de l'histoire humaine.
Le premier d'une longue série, malheureusement.
Ouais, c'est ça. Donc, le sang de son propre frère est sur ses mains. Et la société naissante a franchement de très bonnes raisons de vouloir sa peau. On s'attendrait à quoi? À une justice expéditive.
Un lynchage pur et simple, en fait.
Voilà. Mais contre toute attente, l'autorité suprême décide de le placer dans ce qui ressemble, et c'est fou, au tout premier programme de protection des témoins de l'histoire.
C'est un détail incroyable, et c'est typiquement le genre de choses qui fait complètement dérailler notre lecture habituelle de ces récits anciens.
Absolument. Et c'est pour ça que notre plongée au cœur de nos sources d'aujourd'hui est si passionnante. Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie, où on va décortiquer les chapitres 4 et 5 de la Genèse. L'idée, ce n'est pas du tout de faire de la théologie abstraite, hein?
Non, surtout pas.
C'est vraiment de gratter le vernis des contes pour enfants. On va regarder la radiographie d'une humanité en chute libre. Comment est-ce qu'on s'adapte à une réalité brutale après l'Éden? Comment une simple frustration personnelle devient le point de départ d'une violence technologique à grande échelle?
Et pour bien comprendre, il faut vraiment poser le contexte. L'humanité vient juste d'être jetée dans le monde réel.
Le retour à la réalité fait mal.
Bah oui, le sol est maudit. Travailler, c'est devenu une lutte constante pour survivre. Et le tout premier événement qui se passe dans ce nouveau monde, hors du jardin, c'est un acte d'adoration formel, l'offrande de Caïn et d'Abel.
Le premier gros crash test de la nature humaine, en fait.
Exactement. C'est là que tout va se jouer.
Et c'est aussi là qu'on trouve, je dirais, un des plus grands malentendus. Parce que pendant super longtemps, on a entendu dire que l'offrande de Caïn avait été rejetée pour un détail technique, genre il n'y avait pas de sang.
Ah oui, le fameux mythe du sacrifice sanglant obligatoire.
C'est ça. On se disait, Abel offre un animal, Caïn offre des légumes, donc ça coince. Mais nos sources montrent que, quand on regarde le texte de près, cette théorie s'effondre totalement, non?
Elle s'effondre parce que la linguistique même du texte la contredit. Le mot hébreu utilisé ici, c'est mincha.
Mincha.
Voilà. Et littéralement, ça désigne un don, un tribut, ou spécifiquement... une offrande de céréales ou de fruits.
Donc des végétaux.
Complètement. Et le truc fou, c'est que des siècles plus tard, dans le système lévitique qui est ultra rigide, ce mot « mincha » est utilisé pour des offrandes qui sont totalement valides et même exigées.
Donc, Caïn qui est agriculteur, bah, il amène ce qu'il cultive. C'est juste logique.
C'est parfaitement légitime. Le problème, ce n'est pas du tout le légume. C'est la posture intérieure. Le texte fait une vraie distinction chirurgicale entre les deux. Pour Abel, il est écrit qu'il apporte les premiers-nés de son troupeau et leur partie grasse.
Le top du top, quoi.
Dans l'Antiquité, c'est l'excellence absolue. Il donne ce qui a le plus de valeur, ce qui lui coûte vraiment.
Alors que Caïn, le texte dit juste qu'il apporta des fruits du sol. C'est super laconique.
C'est le strict minimum.
Attends, j'ai une analogie pour ça. C'est comme si on était invité à l'anniversaire d'un ami très cher. Abel, il a préparé son cadeau des mois à l'avance. Et Caïn, il s'est arrêté à la station-service en venant pour acheter un bouquet de fleurs tout flétri sous son emballage plastique parce qu'il avait oublié.
C'est une excellente image. C'est le minimum syndical. On coche la case, mais le cœur n'y est absolument pas. Dans une relation qui est censée restaurer un lien spirituel, c'est carrément une insulte.
Mais attends, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes.
Vas-y.
La vie est dure à ce moment-là. Ils sont en mode survie, la terre est remplie de ronces. Est-ce que Caïn n'est pas juste, pragmatique? Il garde de quoi survivre? Pourquoi on voit ça comme un mal si profond?
Parce que ce pragmatisme, c'est en fait un refus total de vulnérabilité. Donner le meilleur, ça demande de la confiance. Garder le meilleur pour soi, c'est dire en gros que l'on est sa propre sécurité, qu'on se met au centre de l'univers. C'est une coquille vide religieuse.
Ah ouais, zéro engagement relationnel.
Et la preuve que le problème vient bien de son attitude, c'est sa réaction quand il est rejeté. S'il était sincère, il se serait remis en question.
Là, il se met dans une colère noire. Son visage s'assombrit direct.
Son égo est blessé. Et c'est là que nos sources soulignent une analyse psychologique d'une modernité dingue dans le texte. Dieu l'avertit et lui dit que le péché est comme une bête tapie à la porte.
Qui cherche à le dominer.
C'est ça. Mais que lui, Caïn, doit le maîtriser.
C'est le point de bascule. On rentre vraiment dans la mécanique des désirs. Et j'adore la façon dont les sources illustrent ça. J'ai une image en tête, celle de la roulette à pizza.
Une roulette à pizza?
Ouais, suis mon raisonnement. C'est un super outil parfaitement conçu pour couper de la pâte et du fromage. Nos désirs humains, le besoin de reconnaissance, l'amour, la sécurité, ce sont de bons outils, comme la roulette à pizza. Le désir de Caïn d'être approuvé n'est pas mauvais en soi.
D'accord, je commence à voir où tu veux en venir.
Le problème, c'est quand on prend cette fameuse roulette à pizza et qu'on essaye de couper, je sais pas, le carrelage de la salle de bain avec.
Ah oui, là ça va coincer.
Bah oui. Non seulement tu ne coupes rien, mais tu bousilles l'outil, tu détruis le mur et tu finis blessé et furieux.
C'est une métaphore parfaite de la mécanique du désir. Quand on utilise un désir en dehors de son but initial, il devient destructeur. Caïn voulait le statut sans l'investissement moral. Il a pris ce désir, il l'a transformé en jalousie maladive contre son frère, et bah, la roulette a dérapé sur le carrelage.
Avec des conséquences fatales. Et franchement, ça décrit tellement notre réalité d'aujourd'hui. Combien de burn-out ou de divorces viennent de là? On exige de notre travail qu'il nous donne une valeur absolue.
Ce qui est impossible.
On exige d'une relation qu'elle comble tous nos vides. On passe notre temps à scier du carrelage avec des roulettes à pizza. Et quand on explose, on blâme les autres.
Et dans le cas de Caïn, cette explosion mène au premier meurtre prémédité. Il attire Abel dans les champs, il le tue. Et quand on lui demande où est son frère, sa réponse est glaçante.
Suis-je le gardien de mon frère ?
Ce n'est pas qu'une insolence d'ado, tu sais. C'est une négation du tissu social. Dans l'Antiquité, la réponse à cette question est oui, mille fois oui. La tribu survit grâce à la responsabilité mutuelle.
Donc l'individualisme de Caïn, c'est un suicide collectif pour l'époque.
Totalement. Il détruit l'image de Dieu, il ampute l'humanité d'une lignée et il pulvérise le contrat social de base.
Il injecte un poison dans la société. Et le verdict tombe, direct, il est exilé. Mais nos sources soulignent un point fascinant sur la géographie de cet exil. Il part à l'est d'Éden. Ce n'est pas juste une coordonnée GPS, hein.
Non, c'est ce qu'on appelle la théologie de la géographie. Plus tard, quand le tabernacle sera construit, son entrée fera face à l'est. Donc pour s'approcher de Dieu, il faut marcher vers l'ouest. Marcher vers l'est, c'est littéralement tourner le dos à la présence divine. Pour venger Abel. Si la nature humaine est laissée à elle-même, ça va être un bain de sang interminable.
L'humanité s'autodétruirait direct.
Voilà. Et la marque que Dieu place sur lui, c'est un avertissement public. Personne n'a le droit de le toucher. Ce n'est pas une malédiction, c'est le tout premier acte de grâce institutionnelle pour bloquer la vengeance.
Notre fameux programme de protection des témoins.
Voilà.
C'est brillant. On protège le coupable pour sauver la société d'elle-même. Sauf que bah, ça ne va pas suffire. L'escalade va s'accélérer avec la lignée de Caïn. Et on arrive à ce personnage terrifiant, Lamèche.
Lamèche, c'est vraiment l'aboutissement de cet éloignement géographique et spirituel. Il montre que le mal s'institutionnalise. Dès le début, le texte nous dit qu'il prend deux femmes. Le premier cas de polygamie.
Et j'imagine que ce n'est pas présenté comme un progrès social.
Ah non, dans ces textes, la polygamie rime toujours avec jalousie, conflit et rupture de l'harmonie. Il tord la structure familiale pour sa propre domination. Mais le pire, c'est son poème.
Oh, ce poème. Zéro romantisme. Il convoque ses femmes pour se vanter d'avoir tué un jeune homme juste parce que le gars l'avait égratigné.
C'est là qu'il faut bien comprendre la fameuse loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent.
Oui, on cite souvent ça pour dire à quel point l'Antiquité était barbare.
Sauf que c'est l'inverse. La lex talion, ce n'est pas une incitation à la cruauté, c'est une digue. C'est pour dire, si on te casse une dent, tu ne peux prendre qu'une dent. Pas la mâchoire entière, et encore moins la vie.
C'est un plafond de verre de la vengeance pour éviter les massacres.
Exactement. Et Lamèche prend une massue et explose ce plafond de verre. Pour une simple blessure, il prend une vie humaine. Et il conclut en disant que si Caïn est vengé 7 fois, lui le sera 77 fois. Il se met au-dessus de tout.
C'est fou parce qu'on voit ça aujourd'hui, non? Je pense à la violence sur les réseaux sociaux. Quelqu'un fait une maladresse et l'instinct collectif, ce n'est pas de demander une réparation proportionnée. C'est l'anéantissement de sa carrière, de sa réputation. On a plein de petits lamèches derrière nos claviers.
C'est une excellente comparaison. Et le texte source ajoute un détail glaçant. À la même époque, le fils de Lamèche, Tubal-Caïn, invente la métallurgie. Le bronze, le fer.
L'innovation technologique rencontre le vide moral.
C'est exactement ça. Une technologie de pointe émerge au moment précis où la moralité s'effondre. Le fer forgé vient juste armer la cruauté de Lamèche.
Ça casse le mythe naïf qui dit que le progrès technologique nous rend plus civilisés. En fait, l'outil ne change pas notre cœur, il amplifie juste notre capacité à dominer.
C'est terrifiant.
Mais, et c'est la force de ces récits, on ne reste jamais sur un constat de désespoir total. Il y a toujours un mouvement de grâce, et le récit fait un virage serré vers une alternative.
Oui, on revient à Ève, qui met au monde Seth. Son nom veut dire « remplacement » ou « don ». C'est l'alternative après la mort d'Abel.
Et avec Seth, on voit un changement majeur. Le texte dit qu'on commence à invoquer le nom de Yahvé. C'est l'opposé de Lamec qui cherchait à se faire un nom par la violence.
Là, on cherche la présence, on restaure le lien.
On recrée une communauté communautaire, on accepte de ne pas être le centre de l'univers.
Et ça nous amène au fameux chapitre 5. Alors, entre nous, pour la plupart des gens, une généalogie antique, c'est juste une liste soporifique avec des âges improbables. Mais nos notes montrent que c'est construit avec un rythme hyper pesant.
Un rythme funèbre, ouais. À chaque génération, on a cette phrase qui tombe comme un couperet. Et puis, il mourut. Adam vécut tant d'années, et puis il mourut.
Et puis il mourut.
C'est un battement de tambour qui rappelle que la sentence de l'Éden était bien réelle. La mortalité est là.
C'est vertigineux, on dirait un immense cimetière textuel. Mais au milieu de cette liste, il y a un détail crucial à la naissance de Seth.
La clé de notre dignité humaine. Le texte dit qu'Adam engendra Seth à sa ressemblance et selon son image.
Ce qui renvoie direct au fait qu'Adam a été créé à l'image de Dieu.
C'est monumental. Ça veut dire que malgré la chute, l'exil, le meurtre de Caïn, la violence de Lamech, l'empreinte originelle n'a pas été effacée. L'humanité est brisée, mortelle, mais elle porte toujours cette image indestructible.
Ça donne une valeur infinie à chaque vie humaine. On a vraiment une dualité incroyable ici. D'un côté, on est de la poussière, avec ceux et puis il mourut, et de l'autre, on est porteur du divin, avec fait à l'image d'eux, la poussière et les étoiles.
Et c'est cette lignée de Seth qui mènera à Noé, le libérateur. En gros, ces textes nous montrent qu'on est tous à un carrefour. Soit on choisit la voie de Caïn et Lamech, en utilisant nos désirs comme des armes et en explosant de frustration.
On continue de scier le carrelage avec la roulette à Pythia, quoi.
Voilà. Soit on choisit la voie d'Abel et Seth. On accepte la vulnérabilité, on donne le meilleur et on cherche à rétablir le lien. On apprend à maîtriser la bête tapie à la parte.
Ça remet tellement de choses en perspective. Franchement, c'est passionnant. Mais avant de se quitter, il y a une dernière réflexion de nos sources que je veux absolument partager avec notre auditoire. C'est un paradoxe qui laisse vraiment songeur. On a dit que la lignée de Lamech, c'était la violence et l'exil spirituel. Mais le texte précise que ce sont les enfants de ce même Lamech qui fondent la civilisation humaine.
Ah oui, Jubal pour la musique, Jabal pour l'élevage, Tubal-Caïn pour l'industrie.
C'est quand même dingue. La lignée la plus éloignée de l'idéal originel, celle qui est embourbée dans la vengeance, c'est elle qui invente les arts, l'industrie et la technologie. Qu'est-ce que ça nous dit sur nous? Est-ce que notre génie créatif, notre culture, tout ça, ça naît viscéralement de la douleur de notre exil? Est-ce qu'on passe notre temps à essayer de forger un Éden artificiel avec nos technologies et notre musique, juste pour anesthésier le manque du jardin qu'on a perdu?
C'est une question vertigineuse. La beauté qui émerge de la déchirure.
Une vraie réflexion à méditer pour ceux qui nous écoutent, la prochaine fois que vous tiendrez votre smartphone dernier cri ou que vous écouterez un chef-d'œuvre musical, posez-vous la question « Que cherchons-nous vraiment à compenser ?» Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans nos sources. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.